Chapitre 9. Gabriel et Christine. C'étaient des bouts de papier froissés, maculés, sur lesquels elle avait écrit au crayon des notes hâtives quand elle croyait pouvoir disposer de quelques moments de solitude. On se doute de la hâte fiévreuse avec laquelle le prosecteur se jeta sur ces légers documents, les classa suivant la date, quelquefois la simple indication du jour de la semaine et des heures. Avidement, Jacques lut. Il était à côté de moi quand je me suis réveillé dans cette chambre inconnue. Il veillait sur moi avec une hostilité farouche. Ses regards me glaçaient, Jacques, Jacques. Si jamais tu lis ces lignes, sache que je te pardonne. Je suis aussi coupable que toi, et papa aussi est coupable. Hélas, je crois bien que je vais payer pour nous tous, car il ne nous pardonne pas, lui. Songe que j'ai contribué pour ma grande part à le conduire où tu sais, devant la porte du cimetière de Melun, où tu ne l'as pas laissé entrer tout entier. Horreur, il avait droit au repos éternel après le hideux châtiment, et nous l'avons arraché à la grande paix de la terre, pour en faire un sujet d'expérience vivant. Oui, ceci est un crime, ton crime, Jacques, et aussi le nôtre. Mais nous en serons châtiés, et avant longtemps. J'ai lu cela dans ses yeux, comme dans un livre. Lui qui m'adorait, il n'y a que de la haine pour moi dans ses yeux, et aussi la ferme volonté de m'entraîner avec lui dans une catastrophe d'où cette fois il ne reviendra pas, et d'où on ne le fera pas revenir. Ses yeux me brûlent. Son masque immobile, que j'ai fabriqué de mes propres mains pour qu'il soit plus beau, m'épouvante, comme m'épouvanterait une figure de géhenne sculptée dans le marbre du tombeau, dont les lourdes paupières se soulèveraient tout à coup pour me fixer le regard qui consume. Ses beaux sourcils sont deux arcs redoutables dont les flèches font saigner mon cœur. Je n'ai pas la force de réagir. Je ne sais quelle langueur fatale coule dans mes veines. Je me laisse tomber au fond de mon destin comme au creux d'un abîme dont je ne rencontrerai jamais le fond. Et cela est terrible et doux. Je me sens épuisé comme cette pauvre bestie dont un monstre aspirait la vie, mais je n'ai pas la force comme elle d'appeler au secours. Jacques, je te confie ma dernière pensée. Je ne demande qu'à mourir depuis que tu as mis dans la poupée de mon rêve une âme d'assassin. Ma poupée, ma poupée. Mais j'avais mis en toi mon souffle, ma raison et mon âme. Et toi, Jacques, qui as-tu mis? Tu y as mis ma mort. Qu'importe. Je pense à cette mère imaginée par le poète, à qui son fils a tranché la tête et qui emporte cette tête dans un panier. Le fils tombe, la tête roule et la tête demande « T'es-tu fait mal, mon enfant ?» Hélas, hélas, moi, qu'ai-je fait? C'est moi qui ai fait trancher la tête de mon enfant. Non, non, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Je suis à Corbillère, je ne veux pas qu'il fasse de moi ce qu'il a fait des autres. Je ne veux pas voir le sort de la petite Annie. Au secours, moi aussi je crie au secours, Jacques. Mais comme pour la victime du dernier des Coulterets, tu arriveras trop tard. Et je sais où sera mon tombeau. J'ai vu ce que Bénédicte faisait des restes de la petite Annie. Tu sais où tu dois chercher mes cendres. Horreur, horreur, voilà ce que tu as fait de moi, Gabriel. Eh bien non, je ne te pardonne pas. Tu trouvais donc que je t'aimais trop, mais c'est par jalousie que tu as fait cela, dis. Sois heureux, c'est toi qui auras été mon bourreau. Il est sorti J'ai essayé de fuir, mais on ne peut pas fuir de cette chambre. Elles ont dû en savoir quelque chose, celles qui sont passées par là. La fenêtre qui donne sur le jardin a des barreaux et la porte est d'une solidité à toute épreuve. Ils ne doivent vous descendre de là que pour vous conduire à la cave, étape dernière avant ce que j'ai vu. Oh, je deviens folle. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Est-ce une idée? Quand il m'a quitté tout à l'heure, ses yeux étaient moins méchants. J'entends ses pas dans l'escalier. Oh, j'ai peur, j'ai peur. Il est entré. Il avait dans les mains un bol de bouillon chaud. Il me l'a tendu et ses yeux me priaient de le prendre. Ses yeux étaient doux et tristes. Il ne me parle que par son regard. Il est muet, mais il pourrait me faire des signes. Un muet a cent façons de se faire comprendre. Mais lui, il se contente de me regarder, c'est tout. Il pourrait m'écrire. Tu sais qu'il a tout ce qu'il faut pour écrire. Nous lui avons mis dans ses poches tout le nécessaire avec ses clés. Il paraît au courant de bien des choses. Il sait se servir de ses clés, des clés que nous avons mises dans sa poche. Cela, j'en ai la preuve. J'ai entendu hier certains bruits d'engrenage, suivi d'un effrayant tintinnabulement de clés, et j'ai eu peur qu'il entre. Mais je ne l'ai pas vu de la nuit. Et ce matin, ses yeux sont tristes. Est-ce que le danger serait passé? On ne peut jamais être sûr de rien en face d'un personnage pareil. Sais-tu à qui je pense quand je me trouve devant lui? Au moine Schwartz, ce bénédictin qui aurait inventé la poudre et qui, après une première déflagration, craindrait toujours de voir exploser son mélange. Eh bien moi, je crains toujours de voir exploser Gabriel. Un sérum radioactif en a fait une chose dont tu n'as peut-être pas mesuré toutes les conséquences. Sans compter que tu as mis dans la boîte crânienne le cerveau de l'homme de Corbière. Tu as déchaîné la tempête de sang qui m'a emporté, m'a roulé jusque-là, et fera de moi quelque chose qui ressemblera à la petite Annie. Il sort. Il va chercher ma nourriture. Il est triste parce que je ne mange pas. Ou si peu. Quelquefois, je l'aperçois par l'interstice des persiennes qui quitte la maison, ce qui lui arrive ordinairement entre 5 et 6 heures du soir, alors que la nuit est déjà complète. Il va sans doute aux provisions. J'attends 10 minutes et puis je me mets à crier comme une folle dans l'espérance que l'on m'entendra. Qui m'entendrait? Personne n'ose plus passer par là quand tombe le soir. Ah, nous sommes bien gardés par la lueur. J'ai encore entendu aujourd'hui le bruit de l'engrenage d'horloge, toujours suivi de cette effarante danse des clés et de l'affreux claquement de son volet. Tu sais ce que je veux dire, Jacques. Alors je suis renseigné, je sais que son regard est descendu au fond du gouffre intérieur. Et quand il remonte de là, après avoir vu ce qu'il a vu par son volet, j'ai toujours peur que ce soit la fin pour moi. Mais peut-être redoute-t-il cela lui aussi. Car enfin cet homme m'a aimé d'un cœur sauvage et il n'est pas entré. Il m'a fait entendre seulement la danse des petites clés derrière ma porte et il s'est enfui. Je te disais qu'il était au courant de bien des choses. Je reste en effet persuadé que lors de la dernière et suprême expérience, lorsque nous croyions que la première réaction nerveuse ne se manifesterait pas avant la deuxième semaine au plus tôt, il entendait déjà. Oh, nous nous entretenions autour de lui, sans aucune gêne, parce qu'aucun signe extérieur ne nous avertissait qu'il eût commencé à sortir du coma. Mais s'il ne pouvait faire encore aucun geste, le cerveau entendait. Il se connaissait déjà par nos paroles imprudentes. Il entendait les observations lorsque, tel un professeur qui fait une démonstration sur le patient endormi, tu te penchais sur son gouffre intérieur. Seulement voilà, il était déjà à l'état de veille, et il t'a entendu refermer le volet, et il a entendu remuer les petites clés, et il a su à quoi elles servaient, les petites clés. Oh, où veut-il en venir? Cette situation ne saurait durer. Que manigance-t-il? Il est maintenant tout le temps fourré dans le jardin. Par l'interstice des persiennes, je l'ai vu passer avec des outils, une pioche, une pelle. Et je l'entends remuer de la terre. Oh, j'ai peur, j'ai peur. Il ne les brûle plus. Le feu, ça se voit de loin. Il ne peut plus y avoir de feu de cheminée chez Bénédicte Masson. Alors il creuse la terre. Cette danse des clés est infernale. Elle m'empêcherait de dormir si je pouvais dormir. Au moment où je m'y attends le moins, où je m'assoupis dans une torpeur animale, tout à coup elle vient frapper mes oreilles et me remplir d'un nouvel effroi. Il le sait, certes il le sait, et je sais, moi, ce qu'il veut dire quand il agite ses clés, dont le bruit le précède dans l'escalier comme un rire démoniaque. Oui, oui, j'ai parlé de la danse des clés, mais c'est de leur rire, de leur éclat de rire, qu'il faut avoir peur. Elle remplace le rire effroyable qu'il ne peut pas avoir, mais qu'il aurait sûrement s'il pouvait rire après être descendu d'un coup d'œil, d'un seul coup, au fond de son gouffre intérieur. Elle semble me dire, « Toi aussi, tu sais ce qu'il y a au fond de ce gouffre-là. Tu n'ignores rien de ma mécanique. » Et elles paraissent éclater de rire. Et elles repartent, elles redescendent, elles s'éloignent. Ce n'est plus qu'un lamentable petit intinabulement de rien du tout. Aujourd'hui, ses yeux sont plus tristes que jamais. Ses gestes sont calmes et lents. Son attitude est tout à fait accablée. Il me semblait bien lent à se mouvoir. Et j'espère, j'espère. Ah, avoir tant attendu son premier geste. Voilà maintenant que je n'ai plus qu'un espoir. Qu'il retourne à son néant. Tu te rappelles ce que tu disais, Jacques, ce que tu craignais alors, que la suture se fit trop vite? Parce que, après les premières réactions, tu entrevoyais, comme conséquence, une trop rapide dépression. Seigneur, faites que ce ne soit pas une illusion. Il se ralentit. Il se ralentit. Jacques, 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 il ne se ralentissait que pour mieux bondir. Jacques, l'effroyable machine, s'est réveillée. Ce n'est plus Gabriel, ce n'est même plus Bénédicte, c'est un horrible tourbillon. C'est une force insoupçonnée de la nature que nous avons déchaînée. C'est une trombe, un cyclone. Il m'a brisé, déchiré, et il va revenir. Oh non, non, je ne veux pas qu'il m'emporte en bas, je ne veux pas descendre. Je sais ce qu'il a fait des autres en bas, dans l'abattoir, mais je n'ai plus de force, je n'ai plus de force, je ne suis déjà plus qu'une plaie.
Chapitre 10. Un coup de marteau sur le crâne de M. Bessières, directeur de la Sûreté Générale. L'émotion causée par la continuation des crimes de Corbillère ne faisait que grandir. L'opinion publique était soulevée, oubliant naturellement qu'elle avait été la première à exiger la condamnation de Bénédicte Masson. Elle accusait maintenant la sûreté, le parquet, la cour et le jury d'avoir, comme toujours, agi à la légère, sans preuve définitive. Le pauvre relieur, c'est ainsi maintenant qu'on l'appelait dans les faits divers, avait été certainement victime d'une effroyable machination, on ne disait pas laquelle, mais puisque les crimes continuaient, on ne pouvait plus douter de son innocence. On se déchirait dans la grande presse. La polémique la plus farouche mettait aux prises les leaders sans renom. La justice avait trouvé des défenseurs. On avait publié une interview du garde des Sceaux. On fit grand bruit autour d'une déclaration du procureur de la République. « Que les crimes continuent à Corbillère, disait ce haut magistrat, cela ne prouve rien en faveur de l'innocence de Bénédicte Masson. Cela prouve que Bénédicte Masson a eu un ou des imitateurs, voilà tout. Ce n'est pas la première fois qu'une épidémie de ce genre se manifeste dans une contrée où les esprits ont pu se trouver, en quelque sorte, suggestionnés par les événements. Eh bien, s'il y a eu des imitateurs, trouvez-les, répliquait-on au procureur. Je vous prie de croire qu'on les cherchait. Nous avons dit que les inspecteurs de la Sûreté Générale étaient sur les dents. Quant à leur chef, M. Bessières, on racontait déjà qu'il était question de le remplacer. Nous vous laissons à penser s'il fit bon accueil à l'huissier qui lui annonça le matin où nous nous transportons dans ses bureaux qu'un visiteur demandait à lui parler pour faire des révélations de la plus haute importance sur les crimes de Corbillère. « Faites entrer !» s'écria-t-il. Et en même temps, il appuyait sur un bouton de sonnette placé sous son bureau. Tandis qu'on introduisait le personnage annoncé, un soi-disant secrétaire venait s'installer à une petite table où il y avait tout ce qu'il faut pour écrire quand on n'écrit pas à la machine. Monsieur Bessières, après avoir fait un signe discret à son employé, dévisagea le nouveau venu. C'était un vieillard. Il était fort agité, congestionné, enflammé. Il regardait le chef de la Sûreté Générale avec des yeux hagards. Serait-ce un fou ? Se demanda aussitôt Monsieur Bessières. Mais le visiteur lui parut d'esprit plus sain, en dépit de son agitation, lorsqu'il l'entendit déclarer tout d'une haleine. « Monsieur le directeur, vous pouvez être tranquille, la justice n'a point condamné un innocent. Il y a une raison pour que les crimes de Corbillère continuent, et cette raison, hélas, je suis à peu près seul à la connaître. » « Eh bien, il faut me la dire, cher monsieur. Prenez donc la peine de vous asseoir. »« Merci, je ne puis pas rester assis. Si vous saviez, monsieur le directeur, la nuit atroce que j'ai passée. »« Vous me raconterez cela tout à l'heure, cher monsieur, mais pour le moment, tout, je vous dirai tout, toute la vérité. Il faut que vous sachiez, il faut que le monde sache. » « La raison pour laquelle les crimes de Corbillère continuent, » précisa M. Bessières, qui ne redoutait rien tant que de voir cet homme excité se perdre dans des considérations personnelles ou étrangères à son sujet. Le vieillard se pencha sur M. Bessières, ou plutôt projeta sur lui une tête où fulgurait la prodigieuse émotion de son âme en désordre, et sa bouche proféra « Mais les crimes de Corbillère continuent, monsieur, parce que Bénédicte Masson n'est pas mort. » Le monde est un théâtre, la vie une comédie, souvent un drame, et les hommes, des comédiens plus ou moins habiles, sifflés ou applaudis, mais toujours brûlés du désir d'attirer sur eux l'attention de leurs contemporains. On ne se doutera jamais de l'influence que certaines grosses affaires judiciaires peuvent exercer sur des esprits qui passaient jusqu'à ce jour pour bien équilibrés. Le hasard les a mis de l'affaire, ils veulent briller au premier rang. Oh, que n'inventeraient-ils point pour augmenter leur petit rôle, donner plus d'éclat à leur témoignage? Monsieur Béchière était depuis trop longtemps de la partie pour n'être pas sur ses gardes. Tout de même, on a beau avoir pris l'habitude de ne s'étonner de rien, il ne s'attendait pas à ce coup-là. Évidemment, c'était une explication. Les crimes de Corbière continuaient parce que Bénédicte Masson n'était pas mort. Il répondit au vieillard excité. « Alors, vous avez trouvé cela, vous ?»« Monsieur, lui répliqua l'autre, qui paraissait de plus en plus énervé, « je vais vous dire tout à l'heure ce que j'ai trouvé. »« Oh, je vous le dis d'avance, moi, ricana monsieur Bessière. Vous n'avez pu trouver mieux, songez donc. Réfléchissez donc un peu, cher monsieur. Ah, à propos, vous ne m'avez pas dit encore votre nom, mais c'est une formalité dont se chargera tout à l'heure mon secrétaire. Voilà donc où nous en sommes. Bénédicte Masson n'est pas mort, mais il a été guillotiné. Non, monsieur. Comment, il n'a pas été guillotiné? Si, monsieur. Alors, il est mort. Non, monsieur, 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 laissez-moi vous expliquer. Monsieur, ne vous en allez pas. Monsieur, ne me prenez pas pour un fou. Écoutez-moi, vous saurez tout et vous me rendrez ma fille. Monsieur, je n'ai pas l'honneur de la connaître et j'ai un rendez-vous pressé. Mais voici monsieur qui est ici, comme un autre moi-même, à qui vous allez donner vos noms, prénoms et qualités, et qui ne vous refusera rien de ce qui peut vous être agréable. Ma fille, monsieur, il vous la rendra, nous n'avons rien à vous refuser. Là-dessus, monsieur Bessière, qui avait fait un certain signe à son pseudo-secrétaire, s'empressa de laisser le visiteur en tête-à-tête avec cet autre lui-même. Le moment était venu de faire connaissance avec ce personnage qui a joué son rôle dans la coulisse de l'affaire Masson, coulisse que les pouvoirs publics ont volontairement laissée depuis lors dans une ombre inquiétante. Cet agent était connu depuis plus de 20 ans dans tous les services de la police, sûreté générale, sûreté tout court, préfecture et même jusque dans les services de province, sous le nom de l'émissaire. De son vrai nom, il s'appelait Lebouc, Monsieur Lebouc. Et si on avait fait de Monsieur Lebouc l'émissaire, ce n'était point un vilain jeu de mots. Voici comment Monsieur Lebouc était devenu Lebouc émissaire. Cela remontait à certaines affaires politiques qui avaient quelque peu bouleversé le monde. Pour surveiller un personnage en place, dont les agissements étaient soupçonnés redoutables en même temps que contraires à la conception normale d'une saine justice, on avait besoin d'un agent sur l'intelligence et l'audace duquel on put compter, mais que l'on put désavouer si les événements prenaient une tournure inquiétante pour les responsables d'une telle initiative. Monsieur Lebouc avait commencé jeune sur les bancs de la correctionnelle. Cependant, il n'avait pas l'âme vulgaire d'un coquin, tout au plus celle d'un arriviste. Après sa troisième expérience de la vie, qu'il avait conduit comme les deux précédentes devant les juges, il estima qu'il avait choisi le mauvais chemin pour arriver. Las d'être arrêté, il se mit du côté de ceux qui arrêtaient les autres, des coquins se fit croqueur, c'est-à-dire indicateur. Monsieur Lebouc se distingua tout de suite. Bon, ce n'était point l'infâme casserole ni le stupide mouton. Il avait des idées générales. Il avait reçu de l'instruction. Dans plusieurs affaires d'envergure, il adressa à ceux qui l'employaient des rapports qui furent remarqués autant par leur logique policière que par la forme littéraire qu'il savait leur donner. Enfin, il avait du courage. Dans la circonstance que j'ai dite plus haut, on s'adressa à M. Lebouc, qui en fut très fier, mena sa mission à bien et mérita en tout la confiance de ses chefs. Le personnage visé était encore plus puissant que coupable, et il avait des amis qui étaient décidés à tout pour le sauver. Ce fut M. Lebouc qui fut sacrifié et qui accepta son martyr, grassement payé, avec une humilité où tout le monde trouva son compte. On se priva de ses services pendant quelque temps, mais chaque fois que se présentaient des opérations délicates, du genre de celle qui lui avait valu une si haute réputation dans la police, on songeait à M. Lebouc et on l'employait sous un autre nom. Un seul de ces noms finit par lui rester, entre gens au courant, celui de l'émissaire. M. Bessières avait eu l'occasion, au cours de sa brillante carrière, d'apprécier les qualités de l'émissaire, son intelligence éveillée, sa discrétion absolue et, surtout, cette facilité souriante avec laquelle il était toujours prêt à se laisser désavouer. En voilà plus qu'il n'en faut pour expliquer la présence dans les bureaux de la rue des Saussets d'un homme qui aurait été autrefois la perle de la rue de Jérusalem. Monsieur Lebouc resta seul plus d'une heure, en tête-à-tête avec cette espèce de fou dont Monsieur Bessières l'avait chargé d'un signe de les débarrasser au plus tôt. Pendant ce temps, le chef de la Sûreté Générale était descendu par les couloirs intérieurs qui faisaient communiquer ses bureaux avec le ministère de l'Intérieur chez le ministre où se trouvait justement le garde des Sceaux. Il ne fut parlé là que de l'affaire qui occupait Paris, celle de Corbière. La séance fut chaude. Quand M. Bessières remonta et qu'il se trouva en face de M. Lebouc, il dit « Eh bien, vous vous êtes débarrassé du fou ?»« Il vient de partir, » répondit l'agent, « mais il reviendra. »« Comment il reviendra ?»« Oui, » « je lui ai dit de revenir ce soir à 6 heures. »« Oh, ça vous plaisantez !»« Vous savez bien, patron, que je ne plaisante jamais. »« Cet homme est peut-être un fou, mais je n'en suis pas sûr. »« C'est mon système. Dans notre métier, patron, il faut jamais être sûr de rien. »« En tout cas, il était intéressant de l'entendre. » Ce vieillard agité n'est ni plus ni moins que l'horloger de la rue du Saint-Sacrement en Lille, le père Norbert, dont la fille a été trouvée dans la petite maison de Corbière. Eh bien, eh bien, c'est difficile à dire. C'est un bonhomme dont j'ai eu à m'occuper lors de l'affaire de Bénédicte Masson, un homme qui s'occupe de problèmes mécaniques tout à fait exceptionnels. Il a inventé une sorte d'échappement à roues carrées. Enfin, que vous dirais-je ? Ses confrères racontent que depuis des années, il cherche le mouvement perpétuel. Oh, il en a bien l'air. Oui. Et alors ? Mais alors, il raconte, il prétend... Quoi ? Ben, il faut que je vous dise encore, patron. C'est l'oncle d'un Jacques Cotentin... qui n'est pas le premier venu à l'école de médecine. Il est prosecteur là-bas. Paraît que c'est un sujet pas ordinaire de tout non plus, celui-là. Enfin, j'ai téléphoné pour être plus sûr. À qui avez-vous téléphoné ? J'ai téléphoné au professeur Thuillier. Pourquoi ? Pour savoir ce qu'il fallait penser du prosecteur. « Mais enfin, où voulez-vous en venir ? » Le professeur Thuillier m'a répondu textuellement qu'il tenait ce Jacques Cotentin dans la plus haute estime, qu'il le considérait comme une des gloires futures de la chirurgie et comme le continuateur des Carrel et des Rockefeller. Vous savez Rockefeller?
Oui, Carrel, Rockefeller, connu. Font revivre les tissus, raccommodent les vivants, etc.
Eh bien, patron, paraîtrait que Jacques Cotentin raccommode aussi les morts.
Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Est-ce que vous déménagez, vous aussi?
Non, patron.
Pas avant que vous m'ayez trouvé un autre appartement.
Faut que vous sachiez même une chose.
Oh, bon, parlez ou laissez-moi tranquille.
J'ai voulu être sûr de ce détail-là.
Quel détail?
Oh, un détail qui a son importance. Vous savez que la faculté, après l'exécution de Bénédicte Masson, a réclamé sa tête.
Ah, c'est dans la règle.
Mais vous savez pas où l'on a porté sa tête?
Ah, à l'école.
Non, chez l'horloger.
Chez l'horloger? Qu'est-ce qu'un horloger peut bien...
Pardon, le prospecteur habite chez l'horloger.
Ah oui?
Écoutez, tout cela est bien extraordinaire. C'est pas moi qui vous contredirai, mais par principe, moi j'écoute toujours, parce que par principe, je ne suis jamais sûr de rien. Eh bien voilà ce qu'il m'a raconté le vieux. Il aurait fabriqué un automate.
Un automate?
Oui, un automate.
Ne me regardez pas comme ça, patron, ou j'aurai jamais la force de continuer.
Bon, continuez le bouc, je ne vous regarde plus. Mais vous continuez à m'écouter.
Pour vous faire plaisir. Alors, sortez-moi votre histoire.
Le fou a inventé un automate. Oui, un automate dont le prospecteur a habillé l'armature intérieure d'un réseau de nerfs.
Quoi, de nerfs, des cordes à violon?
Non, non, de nerfs, de vrais nerfs humains.
Oh, vous êtes malade, comment vivraient-ils ces nerfs?
Eh bien, ils baigneraient dans un liquide qui ne serait autre que le sérum dont Rockefeller se sert pour entretenir indéfiniment la vie des tissus, et qu'ils auraient soumis en plus à l'action du radium.
Vous m'impressionnez, le bouc, et alors?
Et alors, ben, c'est bien simple, il ne manquait à leur machine qu'un cerveau, et ils lui ont collé celui de Bénédicte Masson.
Nous ne pouvons pour rendre à peu près l'effet produit par cette déclaration sur l'état d'esprit de M. Bessières, que nous servir d'une expression assez usagée dans tous les milieux, du haut en bas de la société, comprise de tous sans que l'on sache du reste pourquoi, Monsieur le directeur de la Sûreté Générale en resta comme deux ronds de flanc. Puis, quand il eut repris le cours de sa respiration,
« Mais c'est vous, dit-il, qu'il faut faire enfermer, mon ami. »«
Peut-être. »«
Oh, sûrement. »«
J'ai toujours fait ce que l'on a voulu. En attendant, les crimes de Corbillère continuent. »«
Eh, je le s'affiche très bien. Allez donc la raconter en bas, l'histoire de la poupée du vieux, si ça pouvait les dérider. »
Le premier et le garde des Sceaux ne sont pas à prendre avec des pincettes. Je viens de subir une petite séance.
Pendant ce temps-là, je vois que vous ne vous embêtez pas ici.
Non mais, dites donc, l'émissaire, est-ce que vous vous moquez de moi? Vous avez dit à cette énergumène de revenir à 6 heures.
Oui, à cause de sa fille. Car enfin, ça, c'est un fait. On lui a volé sa fille.
Qui ont?
Eh bien, la poupée.
Son automate lui a volé sa fille.
Qu'il dit? Oh, calmez-vous, patron, il n'y a pas de quoi se fâcher. Il n'y a qu'à rester ahuri comme moi, ou à en rigoler. Après tout, si vous voulez que nous parlions d'autre chose...
Allez, le bouc, allez. C'est peut-être vous qui avez raison. Il faut toujours écouter les enfants et les fous, bien qu'il n'y ait rien de plus menteur au monde. Mais il suffit quelquefois d'un mot pour vous faire entrevoir la bonne piste. Je vous écoute. Non, ce n'est pas moi que vous écoutez, c'est le vieux. Voilà ce qu'il raconte. Le bénédicte maçon, comme on le sait depuis le procès, était amoureux de sa fille Christine. Le prosecteur n'ayant rien trouvé de mieux, puisqu'il lui fallait un cerveau pour mettre dans son automate, que d'y glisser celui qu'on lui apportait de Melun, c'est-à-dire celui de Bénédicte Masson, il s'est produit ceci qui est en somme assez logique. Le premier geste de l'automate, dès qu'il a donné signe de vie, a été d'emporter Christine. Paraît qu'il s'est jeté dessus comme un sauvage. Ne ris pas, le bouc, je ne ris pas, mais je sens que je deviens abruti de vous entendre me raconter sérieusement des choses pareilles. Je vous parle sérieusement, patron, parce que depuis bien longtemps, rien ne me fait plus rire, et aussi à cause d'un certain détail qui a bien son importance. Avant de se sauver avec la Christine, la poupée a laissé un mot sur la table. Un mot que le vieux a apporté ici. Le voilà. Oh, ce n'est pas long, ce qu'il a écrit. Je suis innocent. Oh, bravo, voilà pour le moins une idée fixe où je ne m'y connais pas. Patron, nous avons d'autres papiers de Bénédicte Masson sur lesquels il a écrit « Je suis innocent ». J'ai fait apporter ici le dossier que nous avons fait venir de Melun depuis que l'affaire de Corbillère, que nous croyons si bien enterrée, ressort de terre, c'est le cas de le dire. Les voici. Eh bien, comparez. Voyons le bouc. En admettant même que ce soit la même écriture, ce qui reste à démontrer. Vous n'allez pas me faire croire que ce papier ne date pas d'avant sa mort. Le bouc, vous allez prendre votre retraite, mon ami. Oui, patron, une fois de plus, une fois de moins. Vous avez voulu vous payer ma tête, n'est-ce pas? Je suis trop pauvre, dit le bouc. Le bouc, vous n'avez qu'une façon de me faire oublier vos plaisanteries de mauvais goût. Vous allez partir pour Corbillère. Je vais vous donner tout pouvoir. Peut-être après tout que Bénédicte Masson était innocent. Tant pis pour ces messieurs de la justice. Moi, je m'en fiche, après tout, de la place Vendôme. Vous allez me dénicher le ou les coupables. Ne craignez rien. Je suis là pour vous soutenir, le bouc. Oh, quant à cela, patron, je compte bien sur vous. Oh, vous pouvez. Oh, qu'est-ce qui vient encore là? Entrez. L'huissier s'avança d'un air mystérieux et dit à voix basse. Monsieur le directeur, c'est une personne qui n'a pas voulu dire son nom et qui m'a chargé de vous remettre ce pli de la part de monsieur l'avocat général Gassier. M. Bessières décacheta vivement et lut. Mon cher directeur, je vous envoie un de nos amis à propos de l'affaire de Corbillère. Il vous racontera des choses intéressantes. Écoutez-le jusqu'au bout. M. Lavieuville est sain de corps et d'esprit. Eh bien, ça nous changera. Quelle drôle de recommandation, fit entendre M. Bessières. Et il lança le mot sur le bureau de l'émissaire. Ah, dit le bouc, c'est Lavieuville. L'horloger a justement parlé d'un Lavieuville. Faites entrer, commanda le chef de la Sûreté Générale. Un homme à figure chafouine et tout grelottant dans un pardessus d'occasion, les souliers maculés d'une boue neigeuse, se présenta, les épaules courbées, le front humble, les yeux obliques. « Messieurs,
commença-t-il, « je vous demande pardon de me présenter dans cet état, mais depuis que l'on m'a volé ma petite voiture... » « Asseyez-vous, monsieur, vous m'êtes recommandé par monsieur l'avocat général Gassier. » Sans quoi je n'eus jamais osé venir vous trouver. Je vous demande la plus grande discrétion. C'est une question de vie ou de mort. Monsieur, je suis monsieur Lavieuville, marguillier à Saint-Louis-en-Lille. J'avais une petite voiture automobile à conduite intérieure. Pardon. Monsieur l'avocat général Gassier me dit que vous désirez me parler à propos de l'affaire de Corbillère. Justement, monsieur le directeur, nous y sommes. Ma voiture m'a été volée par Bénédicte Masson. Alors, c'est une vieille histoire, monsieur, et je crois qu'il est un peu tard pour la lui réclamer. Et monsieur, ce n'est pas une si vieille histoire que cela. Elle ne date pas de 8 jours. Mais monsieur, vous oubliez que Bénédicte Masson a été exécutée il y a plus de 3 semaines. C'est bien pourquoi je viens vous trouver, monsieur. Ce qui m'arrive est inimaginable et sans monsieur l'avocat général Gassier, à qui j'ai tout raconté, preuves en main, je n'eus jamais osé, je vous le répète, venir vous trouver. Monsieur Bessières leva les bras au plafond, se laissa tomber sur un siège, se prit la tête dans les mains en proie à une fureur sombre qu'il parvint cependant à dompter, et il jeta aux visiteurs d'une mâchoire féroce « Parlez, monsieur, je vous écoute. » Eh bien, monsieur, je dois vous dire que j'ai une femme de ménage, Madame Langlois. Bien, monsieur, Madame Langlois, qui va quelquefois, le soir, prendre sa camomille chez Mademoiselle Baresca, mercière. Mademoiselle Baresca, parfait. En compagnie de notre chaisière, Madame Camus, et de l'herboriste, Monsieur Birouste. Madame Camus, Monsieur Birouste, vous n'oubliez personne ? Monsieur, je n'étais pas à cette petite réunion amicale chez Mademoiselle Baresca. Alors, pourquoi m'en parlez-vous? Parce qu'elle a la plus grande importance pour ce que j'ai à vous dire. Madame Langlois, ma femme de ménage, est bien malade, monsieur le directeur. Croyez, cher monsieur, que je regrette bien sincèrement. C'est d'autant plus regrettable que si elle avait été mieux portante, elle m'eût accompagnée jusqu'ici. Mademoiselle Baresca et Madame Camus, elles vont mieux, mais elles n'osent sortir de chez elles. Quant à Monsieur Birouste, il n'a pas quitté le lit depuis cette effroyable aventure. Mais de quelle aventure parlez-vous? De la vôtre ou de la leur? C'est la même, monsieur. Seulement, elle a eu 2 actes. Le premier s'est passé chez Mademoiselle Baresca, pendant sa camomille. Il faut vous dire que Madame Langlois faisait autrefois le ménage de Bénédicte Masson. Et il ne l'a pas assassinée. Oh, pas encore, monsieur, mais au train des choses, cela pourrait bien arriver un jour ou l'autre. Voilà pourquoi je suis chez vous, monsieur, et pourquoi monsieur l'avocat général Gassier... Monsieur l'avocat général Gassier s'est moqué de vous, monsieur. Je ne comprends pas. Oh, je ne pense pas que monsieur l'avocat général Gassier se soit moqué de moi, interrompit sans s'émouvoir monsieur Lavieuville. Et si vous ne comprenez pas, monsieur le directeur, c'est que vous ne m'écoutez pas. J'en reviens à la camomille chez Mademoiselle Baresca. Madame Langlois, hein, qui faisait le ménage de Bénédicte Masson, faisait aussi celui du bonhomme Norbert, l'horloger. Ah, elle fait donc tous les ménages de l'île Saint-Louis, cette brave dame. Non, monsieur le directeur, mais elle sait à peu près ce qui se passe dans tous les ménages. Elle est fort instructive à entendre.
dans le cas qui nous occupe, elle entretenait ses dames d'une sorte de personnage qui habitait clandestinement chez l'horloger et qu'elle avait pris pour un mutilé de la guerre, pour un amoché, comme on dit de nos jours. Le neveu du bonhomme Norbert, le prosecteur Jacques Cotentin, qui est, m'a dit monsieur l'avocat général Gassier, une espèce de génie, donnait ses soins à ce soi-disant mutilé. Or, ne vous étonnez de rien, monsieur le directeur. Vous comprenez que si monsieur Gassier m'a envoyé à vous, eh bien, ce soi-disant mutilé, au dernier renseignement, serait tout simplement un automate. Monsieur Bessières bondit comme s'il avait été un automate lui-même, obéissant à quelque ressort caché. « Tout simplement !» s'écria-t-il. « Et qu'entendez-vous par les derniers renseignements ?»« Ceux qui m'ont été fournis par mon ami, Monsieur Gassier, à qui j'avais raconté mon aventure et qui a fait une enquête personnelle, d'où il a déduit lui-même que nous avions toutes les chances pour avoir affaire à un automate. Ah, ah, vraiment, ces messieurs du parquet de la Seine ont fait de leur côté leur petite enquête, réfléchit tout haut M. Bessières en se rasseyant avec un étrange sourire. Ben, ils ne vous le cachent pas, monsieur, puisque ce sont eux qui officieusement, si j'ose dire, m'ont donné le conseil de venir vous trouver. Oui, oui, continuez, cher monsieur Lavieuville, ou commencez à devenir intéressant. Décidément, ces messieurs de la justice ont l'esprit de corps et pratiquent la solidarité. Mais je n'aurais jamais imaginé. Je continue. Le soir de la camomille, il arriva qu'au moment même où ces dames parlaient entre elles de ce soi-disant mutilé, la porte s'ouvrit et qu'elle ne fut pas leur épouvante en voyant apparaître le mystérieux personnage, tout couvert de sang et portant dans ses bras mademoiselle Christine Norbert évanouie. Oh, je ne vous dépeins pas la scène. Vous interrogerez madame Langlois. Sachez que c'est là que cette espèce de monstre mécanique donna à sa captive les premiers soins que nécessitait son état, et il s'enfuit sans avoir dit un mot. Ah ah, l'automate ne parle pas. Non, monsieur, il ne parle pas, mais il entend très bien. Ah, vous me rassurez. Monsieur Birouste, l'herboriste, rentre affolé chez lui. Horreur ! Il y retrouve le terrible visiteur, toujours soignant Christine Norbert. De plus en plus épouvanté, notre herboriste se sauve par une fenêtre. C'est alors que moi, à peu près à la même heure, c'est-à-dire vers les 6h30 du matin, je sortais de l'église de Saint-Louis en Lille, où je venais d'assister à l'office divin, et je m'apprêtais à monter dans ma petite auto à conduite intérieure, quand le dit personnage me renversait, jetait dans ma voiture sa victime, me dépouillait de mes vêtements et, par cela même, des 15 000 francs qui étaient dans mon portefeuille, me jetait son manteau, mettait en marche et disparaissait du côté de la rive gauche. Monsieur Gassier a pu savoir depuis que la voiture avait pris le chemin de Pontoise. Là, on ne la retrouve plus. Mais avant de disparaître, le bandit s'était arrêté chez le restaurateur Flottard, chez qui il commettait je ne sais quel attentat. Flottard s'était défendu en lui plantant dans le dos un énorme couteau de cuisine, ce dont le personnage en question n'eut même pas l'air de s'apercevoir. Retenez bien ceci, monsieur le directeur, il ne saigna même pas. Comme d'un autre côté, M. Gassier venait d'avoir certains renseignements des plus précis touchant les travaux particuliers de l'horloger et du prosecteur, qui employait un garçon d'amphithéâtre nommé Baptiste, que l'on interrogea et que l'on finit par faire parler en le menaçant de la justice, M. Gassier émit cette idée que l'on pourrait très bien avoir affaire, comme je vous le disais tout à l'heure, à un automate.
Compris, oh, j'ai compris, monsieur le marguillier. Vous pourrez même dire à monsieur l'avocat général Gassier que je n'ai eu aucune difficulté à comprendre, mais qu'est-ce que vient faire Bénédicte Masson là-dedans?
Eh bien voilà, monsieur le directeur, après l'exécution, on avait apporté au prosecteur la tête de Bénédicte Masson.
Je sais, tenez, monsieur le marguillier,
je m'appelle monsieur Lavieuville,
monsieur le marguillier Lavieuville, je sais tout ce que vous allez me dire, encore une chose que vous pourrez répéter à monsieur Gassier, vous allez me dire que le prosecteur a mis la cervelle encore toute chaude de Bénédicte Masson dans la boîte crânienne de son automate.
Oui, monsieur le directeur, vous y êtes, c'est épouvantable.
Là-dessus, M. Bessières se leva, il ne ricanait plus. Il donna un coup de poing formidable sur son bureau, ce qui fit sursauter M. Lavieuville. « Alors vous allez me faire croire que vous croyez cela, vous ?»«
Nous avons les preuves en main, » fit M. Lavieuville un peu pâle et en se reculant prudemment.
Qui, nous ?
Oh, pardon, moi, pour rien au monde, monsieur l'avocat général Gassier ne doit être mêlé à cette affaire.
Ah, je crois bien, il ne désire pas, n'est-ce pas ?
Il ne s'en est occupé que par amitié pour moi, mais sa situation officielle.
Bon, compris, il peut être tranquille, mais dites-moi aussi que ce n'est pas la Sûreté Générale qui prendra sur elle de lancer sur le monde une histoire pareille. Alors, vous avez des preuves, cher monsieur Lavieuville.
Oui, monsieur, les voici. Si cet affreux automate ne parle pas, il écrit.
Ah oui, avec l'écriture de Bénédicte Masson, naturellement.
Monsieur, vous devinez tout. C'est en effet avec l'écriture de Bénédicte Masson que le mystérieux personnage a tracé les lignes que voici, sous les yeux épouvantés de Mademoiselle Baresca, de Madame Camus, de Madame Langlois et de Monsieur Birouste, après l'exécution de Bénédicte Masson.
Silence, si vous tenez à la vie.
Et voici d'autres petits mots tracé toujours le même soir, ou plutôt la même nuit, quelques heures avant l'attentat qui me concerne, par le même personnage dans la chambre même de M. Birouste. Enfin, voici l'attestation de trois experts assermentés auxquels M. Gassier a fait soumettre ses papiers en même temps que des documents de la main de Bénédicte Masson produits au procès. Il conclut tous trois qu'il n'y a aucun doute à avoir, que c'est la même écriture et que c'est le même individu qui l'a tracé.
C'était au tour de M. Bessières d'être maintenant un peu pâle. Il se leva, les sourcils froncés, les lèvres frémissantes. « Voulez-vous me laisser ces documents, monsieur ?»
« Oh, j'y vois d'autant moins d'inconvénients, » répondit M. Lavieuville, « que je sais que M. Cassier en a fait prendre des photographies. »
Et comme M. Bessières se taisait et restait debout, il comprit que la séance était terminée.
« Je vous laisse également mon adresse, monsieur le directeur, si par hasard vous aviez besoin de moi. »«
Oh, monsieur, vous entendrez parler de nous !» lui répliqua M. Bessières. C'est bien la moindre des choses que nous essayons de vous faire entrer en possession de votre auto et de vos 15 000 francs. M. Lavieuville salua et s'en alla, dissimulant sous un sourire de commande
le mécontentement où il était de cette réception. Il s'attendait à tout, excepté à cette ironie de glace sous laquelle il entrevoyait une pensée singulièrement hostile. La porte ne fut pas plutôt fermée sur le marguillier que M. Bessières éclata. « Oh, je ne marche pas !» s'écria-t-il en s'avançant sur M. Lebouc, qui jusqu'alors n'avait pas bronché derrière son écritoire, sur laquelle il était resté penché, prenant hâtivement des notes. « Non, ils ne m'auront pas. Ah, je vous en fiche mon billet, Lebouc. Tout cela est un coup monté par ces messieurs du parquet. Tous ces gens-là se tiennent et sont prêts à se lancer dans l'affaire la plus absurde pour sauver la face de Thémis. C'est toujours la même histoire. Nous la connaissons. Il n'y a pas si longtemps que nous avons vu un monsieur haut gradé, mais plein d'une astuce primaire, mettre une jupe, une voilette et une paire de lunettes pour sonder les arcanes d'une affaire où il était question de sauver les grands principes. La poupée ne date pas d'hier. Dans la naïveté têtue de son âme, l'homme à la voilette croyait passer inaperçu. Gassier, derrière son automate, est un imbécile. Il dit que la poupée est muette, ça n'est pas vrai, elle crie. Ne touchez pas au grand corps de l'État, ne touchez pas. Et pendant ce temps-là, nous, de la police, on nous sacrifie. Oui, monsieur, acquiesça monsieur Lebouc. On nous a fait danser comme des pantins. Oh, ces messieurs ont bien tort d'inventer des automates. Ne leur suffit-il pas de tirer nos ficelles? Eh bien, j'en ai assez. Vous l'avez entendu, le marguillier envoyé par l'avocat général, ça a été sa première phrase. Vous pouvez être tranquille, monsieur. La justice n'a pas condamné un innocent. Ah, voyez-vous, tout est là, Lebouc. Mettez-vous bien cela dans la tête. La justice ne peut pas condamner un innocent. « Non, monsieur. »« Si, monsieur. Ce sont des choses qui arrivent et ça ne me regarde pas. Je fais ce que je peux, j'apporte des faits à la justice de prendre ses responsabilités. Eh bien, elle prendra celle-là, je vous le jure. Ce n'est pas la Sûreté Générale qui ressuscitera Bénédicte Masson. Ils ont des experts qui les produisent eux-mêmes. N'est-ce pas, Lebouc ?»« Oui, monsieur. » »« Eh bien, qu'est-ce que vous pensez de cela, vous ?» Je pense que ce qu'il y aurait de mieux à faire, ce serait d'interroger au plus tôt le prosecteur lui-même, ce Jacques Cotentin, qui, d'après M. le professeur Thuillier, fait revivre indéfiniment avec son sérum les tissus, les nerfs et même les cerveaux. Encore un farceur! C'est pas la vie du professeur Thuillier. Bon, après tout, vous avez raison, Lebouc, c'est le plus simple. Tâchez de me trouver cet homme-là au plus tôt et amenez-le moi. Monsieur, j'ai justement beaucoup de chance de le trouver à Corbillère, où vous m'envoyez. Comment cela? L'entrée de monsieur Lavieuville. Et aussi, il faut bien le dire, monsieur le directeur, l'état d'esprit dans lequel vous vous trouviez ne m'a pas permis de vous rapporter jusqu'à la fin les propos un peu extravagants de l'horloger. Vous êtes modeste, monsieur, dans vos qualificatifs. Mon système, monsieur le directeur, est de ne point juger les propos, mais de retenir les faits. Eh bien, un fait m'a frappé dans ce que m'a dit ce vieillard excité. C'est que dans leurs recherches, le prosecteur et lui ont été conduits à Corbillère par les événements. Ont pénétré dans la demeure de Bénédicte Masson et ont relevé les traces terribles du passage de la poupée et le peignoir ensanglanté de la pauvre Christine Norbert qu'ils n'ont pas plus retrouvé, elle, que l'on a retrouvé les premières victimes de Bénédicte Masson. Ah, et vous ne me disiez pas cela, Lebouc? Monsieur, mon système est de procéder par ordre. Et le prosecteur, où est-il? Oh, je veux le voir tout de suite, au prosecteur. L'horloger m'a dit qu'il l'a laissé là-bas, en proie au plus grand désespoir, car cet homme aime Christine Norbert au point autant que la poupée du reste. autant que la poupée. Je veux dire, autant que monsieur Bénédicte Masson l'aime lui-même.
Le bouc, mon ami le bouc, si vous voulez que je ne devienne pas fou sur le champ, sautez dans une auto, courez à Corbière et ramenez-moi le prospecteur, coûte que coûte de gré ou de force.
Bien, monsieur, je vous rappelle que l'horloger, qui est retourné à son domicile de l'île Saint-Louis, en attendant vos ordres, doit revenir ici ce soir à 6 heures.
Ce soir à 6 heures. Bon, ne vous en occupez pas, je vais le faire chercher tout de suite. Allez, le bouquet, surtout pas un mot de tout ceci.
Entendu, monsieur le directeur, vous pensez bien. Pas une ligne dans les journaux avant que j'aie éclairci cette affaire.
Monsieur le directeur peut compter sur ma discrétion.
L'émissaire s'en alla. Monsieur Bessière, qui suait à grosses gouttes, se laissa tomber dans son fauteuil, les membres ballants, la tête inclinée sur l'épaule, les yeux ronds roulant dans leurs orbites avec cet air fatal, désespéré et stupide qu'a le bœuf à l'abattoir après le coup de maillet qui ne l'a point tout à fait privé de vie, mais qui l'a déjà conduit aux portes du néant.